Encore une fois, peut-être merci aux organisateurs de m'avoir invité et peut-être exprimer aussi ma joie parce que, alors je sais très bien que vous auriez fait ce que vous avez fait sans moi, ça c'est clair, mais quand même je suis content que cette idée d'assemblée des communs ait pris racine. Et je vais peut-être vous rappeler quand même qu'un des buts, c'était aussi de créer une voie pour les commoneurs, c'est-à-dire que pour que tous ces gens qui sont actifs aujourd'hui dans la transition, qu'elle soit alimentaire ou au niveau de l'énergie et au niveau de l'habitat, se reconnaissent entre eux pour comme, tiens, on fait des choses différentes, mais en fait, on est tous engagés dans une construction du commun et une défense des communs. Et donc, peut-être qu'on est aussi un sujet politique, un sujet citoyen qui doit commencer à s'exprimer par rapport aux institutions, etc. Donc c'était un peu l'idée. Alors de quoi je vais parler ? Je vais parler de changement de régime de valeur. Et ceux qui me connaissent savent que je ne peux pas m'en empêcher d'un peu faire d'histoire. Donc je commence toujours avec une petite fresque historique. Mais avant ça, j'aimerais bien expliquer ce que c'est un régime de valeur. On va prendre un exemple. Une infirmière, il y a 50 ans, qui est une nonne et qui travaille comme volontaire pour un hôpital catholique, on va dire. Dans notre système courant, cette personne ne crée pas de valeur. En tout cas, pas de valeur marchande telle qu'on l'entend aujourd'hui. Donc, on estime que la valeur, c'est la valeur marchande. Et donc, cette personne ne crée pas de valeur. Une autre personne qui travaille pour l'État, une infirmière dans un hôpital public, non seulement elle ne crée pas de la valeur, mais elle coûte. Donc quand il y a une crise économique dans notre société, on dit tiens, le marché ne crée pas assez de valeur, et donc on doit couper dans l'État. Donc c'est considéré comme un coût. Donc elle est dans une situation, on va dire, un peu pire que la volontaire qui est considérée comme neutre. Donc, dans le cas d'une infirmière qui travaille pour le service public, elle est considérée comme un coût. Et donc, la seule infirmière qui crée de la valeur, malgré peut-être sa propre volonté, c'est une infirmière qui travaille dans un hôpital privé, qui crée de la survalue pour le système marchand. Donc ça, pourquoi j'explique ça? C'est pour montrer qu'une activité en tant que telle, ça ne veut rien dire sans le contexte qui crée... qui décide dans une société ce que c'est de la valeur. Donc on vit dans une dictature de la valeur, un système particulier qui dicte ce qu'a de la valeur et ce qu'il ne l'a pas. Et donc, la bonne nouvelle, en tout cas, c'est que quand on regarde l'histoire humaine, on voit que les systèmes de valeur, ça change. Alors, je vais brièvement vous parler d'un auteur qui s'appelle Kōjin Karatani. C'est un philosophe post-néo trans-marxiste, on ne sait pas très bien à quoi, qui a fait le pari suivant. Si on parlait moins de mode de production, mais de mode d'échange. Si on se focalise comment, dans une société, les ressources sont allouées. Et donc, je vais un peu faire une petite synthèse de sa vision. C'est un livre qui s'appelle « The Structure of World History », donc « La structure de l'histoire mondiale », qui est vraiment une synthèse assez magistrale et imaginative de l'histoire humaine au niveau justement de l'économie et des systèmes de valeurs. Donc mode A1, c'est système nomadique. Donc des petits groupes humains au début de l'histoire humaine qui restent pas sur place. Et en fait, ce qu'ils font, c'est le commun. C'est en anglais « pooling », donc ils mutualisent les ressources. Donc il n'y a pas de marché, il n'y a même pas encore d'économie du don. Donc le chasseur, les cueilleurs, ils vont à la chasse, ils vont à la cueillette, et c'est pour toute la famille. Donc c'est mutualisé, c'est l'échange entre un individu et un groupe. Et donc c'est vraiment la première... donc le commun, en fait, c'est ce qui est dominant, en fait, à l'aube de l'histoire humaine. Donc ça c'est quand même assez intéressant. Donc première transition, c'est la transition d'un système qui est dominé par la mutualisation et les communs vers un système qui est dominée par l'économie du don. Donc par Selma, je ne sais pas si vous connaissez. Donc en France, il y a un mouvement qui s'appelle le mouvement du Maus, le mouvement anti-utilitariste des sciences sociales qui est spécialisé dans ce genre d'anthropologie. Donc on va dire, on va admettre comme hypothèse qu'une de d'un de ces groupes humains va se sédentariser. Une fois qu'on est sédentarisé, on ne sait plus s'évader des conflits. Et donc, on va chercher un moyen de pacifier les relations sociales. Et c'est de la naissance de l'économie du don. Donc par le don et le contre-don, on crée de l'obligation mutuelle dans des systèmes qui sont de plus en plus grands, donc jusqu'à des fédérations tribales. Donc ça, c'est la première transition d'un régime de valeurs à un autre. Deuxième transition, elle est difficile à expliquer, cette transition, parce que quand on voit l'histoire de la civilisation tribale, pendant des dizaines de milliers d'années, ils ont réussi à éviter les classes et l'État. Donc ils avaient des techniques qui sont décrites dans des livres comme celui de Pierre Clastres, Les sociétés contre l'État, ou Christopher Böhm, L'hiérarchie de la forêt, donc qui démontre toute la série de techniques qui existaient pour éviter un surplus qui serait accaparé par une minorité. Donc il est assez difficile d'expliquer l'émergence du monde de classe, de domination, de l'exploitation et de l'État d'une façon directe. Donc l'hypothèse, en fait, c'est une sorte d'émergence exogène en dehors du système. Et donc on doit s'imaginer qu'une tribu quelconque qui était dans une situation, on va dire, de catastrophe, changement climatique, maladie, se sent obligée à envahir et à dominer une autre tribu pour survivre. Alors une fois qu'on a cette forme de domination, de conquête, il ne peut plus y avoir l'économie du don. Et donc la logique de l'État, dans son langage, c'est « rule and protect, plunder and redistribute ». On va prendre l'exemple des Incas. Donc ils visitaient une tribu avoisinante, et il disait, tiens, si vous nous joignez, vous allez avoir des silos de grains, vous allez avoir la sécurité sociale, vous allez augmenter, vous allez augmenter de 10 fois votre productivité alimentaire, et on va éduquer vos enfants, et si ça ne vous intéresse pas, on vous tue tous. Voilà. C'était le contrat social des empires. Hein, donc si on joint, on s'améliore, on peut attendre une sorte d'amélioration matérielle. Les temples, les routes, les bibliothèques, les académies, et si on ne les rejoint pas, tellement gay. Mais donc un État, c'est toujours double. Il faut toujours voir les deux aspects de l'État. Donc on prend, mais aussi on est obligé pour acquérir une légitimité et une fidélité, on est aussi obligé de donner, donc de redistribuer d'une façon ou d'une autre le surplus. Donc ça, c'est la base de son troisième système. L'État, l'émergence de l'État. Quatrième système que nous connaissons tous, le marché, et en particulier le marché capitaliste. Alors là aussi, l'émergence du marché est un peu un mystère qu'il explique de façon suivante, parce qu'il faut savoir que donc le marché, il a existé pratiquement de tous les temps, donc même dans les civilisations tribales, il y avait le marché, mais c'était un marché tout à fait marginal, périphérique. Et par exemple, dans Pierre Clastres, si je me trompe, il explique que c'était ce qu'on faisait avec les gens qu'on ne connaissait pas et de qui on se méfiait. Donc on mettait des choses sur la plage et puis on regardait ce qu'on prenait. Et puis Donc le marché, c'était quelque chose de tout à fait limité et périphérique. Et même dans les empires, le marché était en fait en général géré par l'État. Par exemple, chez les Chinois, c'était les officiels de l'État qui étaient en charge du marché. Idem d'ailleurs dans beaucoup de villes médiévales. Donc il explique l'émergence du marché et surtout du marché dominant. Et vous allez voir ce que ça va avec les communs tout à l'heure. J'ai presque fini avec l'aspect historique. Par le fait qu'en Europe, donc à la fin de l'Empire romain, on n'a jamais réussi à recréer un empire. Et donc on a eu les villes médiévales indépendantes. Et c'est dans ces villes qu'on a pu nourrir la forme marchande qui est devenue petit à petit une forme très, très, de plus en plus forte jusqu'à un moment donné, évidemment, au XVIIIe siècle, peut-être, où c'est devenu la modalité dominante de nos sociétés. Alors, donc cette approche de Karatani, elle est intéressante pour plusieurs points de vue. Et le premier point de vue, c'est de reconnaître la multimodalité des modes d'allocation. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on regarde l'histoire humaine, il y a toujours eu ces quatre façons d'allouer les ressources. Donc, le commun, la réciprocité, la redistribution étatique et le mode marchand. Donc, ils ont toujours existé. Mais ce qui est important, c'est qu'ils ont existé sous des formes dominantes différentes. Donc, dans un empire, c'est l'État qui domine et qui peut intégrer dans son sein des formes de réciprocité, de marché et même de commun. Donc, dans la féodalité européenne, les communs, ils étaient reconnus. Ils avaient une place dans la féodalité. Il paraît, j'ai pas étudié ça de près, mais que les Mongols, par exemple, à l'intérieur de leur propre structure de domination, donc il y avait une réciprocité dans la classe dirigeante, par exemple. Hein, ou en Europe, la réciprocité entre les féodaux et l'Église, hein, où les féodaux donnaient des terres et des dons à l'Église, et l'Église donnait des choses immatérielles qui étaient importantes pour cette classe dirigeante. Voilà. Donc la multimodalité, c'est intéressant, c'est parce que ça nous permet de voir le monde d'une façon qui n'est pas justement d'un système qui serait le capitalisme, de changer vers un autre système qui serait le socialisme, comme s'il n'y avait qu'un système, mais qui nous permet de voir qu'en fait, si on a eu une société capitaliste, c'est parce qu'il y avait des capitalistes. Pendant des centaines d'années, il y avait des capitalistes qui se sont renforcés et qui ont petit à petit modélé le reste du monde à leur image, jusqu'au moment où ils sont devenus dominants, ils ont renversé les autres forces. Et donc on peut aussi appliquer ça sur les communs. Donc développer une idée de stratégie multimodale au niveau des communs. Alors peut-être d'abord expliquer, juste avant de commencer ça, la vision de Karatani sur le capitalisme, que je crois qu'il est aussi très intéressant. Donc il dit que le système capitaliste, ce n'est pas seulement le marché, c'est capital, État, nation. Donc en fait, ce sont au moins trois de ces quatre formes d'allocation de ressources qui sont intégrées dans un système sous la domination du mode du marché. Hein? Et alors, vous connaissez peut-être aussi Polanyi, Karl Polanyi, la grande transformation et sa notion de double mouvement. Alors ça, c'est très intéressant. Donc il dit que donc, le capital est dominant. Mais il y a une tendance à se, en anglais, disembedded, de sortir de la société, et que chaque fois que le marché sort de la société, il détruit la société. Et donc du coup, ça c'est le double mouvement, donc disembedment, re-embedment. Donc on peut voir toute l'histoire du capitalisme industriel comme une sorte de pendule, lib-lab, on dit en anglais, liberal labor. Donc des périodes, par exemple, le capitalisme smithien, 1640 et après, où le marché se détache, hein, le laisser faire. Et puis des mouvements, des contre-mouvements, par exemple le mouvement antitrust aux États-Unis, qui va dans l'autre sens, ou par exemple les 30 glorieuses, comme un contre-mouvement de la société civile, du mouvement ouvrier, contre les excès des années 30 et des années 20. Donc ça, c'est le fameux double mouvement. Donc c'est, si vous voulez, c'est la nation en tant que communauté imaginaire, donc l'identité des gens où se passent les discussions éthiques sur la justice sociale, etc., qui force l'État à discipliner le marché. C'est ça le fameux double mouvement. Évidemment, ça ne marche plus. Ça ne marche plus parce qu'aujourd'hui, le capital est devenu transnational. Et donc, on voit bien, hein, Venezuela, Syriza, on voit bien qu'aujourd'hui, les tentatives de l'État-nation, de la nation, de forcer l'État à discipliner le capital, on ne peut pas dire que ça a beaucoup de succès. Parce que face à l'État-nation qui opère à une échelle limitée, on a un capital qui peut jouer avec les institutions globales comme l'FMI, la Banque mondiale, qui peut déplacer des capitaux, etc., etc. Et donc, il peut finalement, ce qu'on a bien vu en Grèce, la Grèce a en fait perdu sa souveraineté. Donc, les lois en Grèce sont maintenant préparées en dehors de la Grèce, et le Parlement grec peut dire oui ou non. Et donc, il n'y a plus de souveraineté, en tout cas en Grèce, au niveau national.
En Islande,
c'est peut-être peut-être un contre-exemple, parce que puisqu'ils ont réussi à mettre leur banquier en prison. Donc là, c'est peut-être un bon exemple, mais enfin, ça reste quand même limité aussi. Oui. Alors, donc pour les communs, donc là, je passe aux communs, et j'ai écrit un petit livre qui va paraître chez FPH bientôt. Qui explique donc une proposition de stratégie multimodale pour les communs et pour un monde des communs. Donc j'ai déjà expliqué plusieurs fois à d'autres personnes qui l'ont déjà entendu, mais je vais faire ça en vitesse. Donc à mon avis, quand on examine l'économie des communs, et surtout l'économie globale des communs, donc celle qui, on va dire l'économie numérique, on voit trois nouvelles institutions. On voit la communauté productive, donc les gens qui se coalisent autour d'un objet commun et qui se coordonnent par Sigmergie, on en a parlé ce matin, donc en Wikispeed, Wikihouse, Linux, Arduino, etc. On voit une deuxième institution qui est la coalition entrepreneuriale. Et cette coalition entrepreneuriale peut être extractive, donc elle peut consister à des firmes qui veulent maximaliser leurs profits par rapport à ces communs. On a des systèmes comme IBM avec Linux, ce qui va encore parce qu'il y a en fait un réinvestissement de IBM et de ce genre de... Mais surtout, on voit chez Facebook, Uber, Airbnb, donc des systèmes sociaux. Dans le cas de Facebook, il n'y a aucune reconnaissance de la co-création de valeur avec sa communauté d'utilisateurs. Donc il y a 100% de capture de la valeur marchande. Et dans des groupes comme Uber, Airbnb, bon, vous connaissez, ils prennent 30% des transactions et créent des systèmes de travail totalement précarisés par rapport au monde du travail qu'on a connu. Donc une forme de capitalisme finalement qui ne produit plus par du travail marchandisé et qui crée des marchandises pour vendre sur le marché, mais une forme de capitalisme qui exploite directement les communs. J'ai appelé ça le capitalisme anarchique. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a des alternatives, évidemment. Donc ça, c'est la deuxième institution. Ce sont les économies éthiques génératives. Les coalitions les entrepreneurs éthiques qui ont un point de vue génératif. Genre Inspiro, par exemple, qui est une coalition néo-zélandaise. Donc ils ont leur commun, Lumio CoBudget. Lumio, c'est un logiciel de prise de décision démocratique open source. Ils ont 18... social ventures, donc des social entrepreneurs qui ont des projets comme par exemple l'éducation des enfants maoris ou la protection de certaines rivières dans le pays. Ils ont Inspiral Ventures, ils ont Inspiral Academy, donc des écoles. Enfin, il y a plein, toute une série d'activités qui créent une vie économique et de la solidarité autour de ces communs, autour de cette production de communs. Par exemple, quand je les ai visités l'année passée, j'ai eu la chance de voir qu'ils étaient en train de mettre de l'argent ensemble pour un mortgage, comment on dit ça en français ? Une hypothèque. Donc ils essayent de se soutenir les uns les autres pour pouvoir avoir assez d'argent pour des prêts immobiliers, etc. Bon, ils sont aussi dans l'habitat coopératif, ils ont des écovillages, etc. Troisième aspect très important, c'est que la plupart de ces coalitions et de ces communautés productives sont gérées pas au niveau de la production, c'est ça qui est intéressant. Donc il n'y a personne qui dit à une autre personne ce qu'elle doit faire, mais ce sont des institutions facilitatrices. Donc en anglais, on appelle ça For Benefit Associations. Que fait la Wikimedia Foundation par rapport à Wikipédia ? Ce n'est pas diriger la production, mais c'est faire en sorte qu'elle est capable d'exister. Donc, ces associations, ces fondations font en sorte que l'infrastructure de coopération puisse exister dans le temps. Ils font du crowdfunding, ils font du financement participatif, ils protègent les licences, ils organisent l'éducation permanente. Enfin, ils ont des activités qui visent à soutenir l'écosystème. Alors, de là, je trouve, on peut faire le pas, en tout cas moi je le fais, de voir ça comme l'émergence d'un nouveau système social qui combine les modes d'allocation d'une nouvelle façon. Donc là où dans le capitalisme le marché est dominant et il a apprivoisé l'État et le commun pour ses propres priorités, nous avons là en forme de semences, seed forms, qu'on dit en anglais, des microsystèmes qui montrent un macrosystème potentiel où les communs sont primordiaux. Donc le centre de ce nouveau système, c'est les citoyens qui coproduisent des communs et qui mutualisent leurs connaissances productives. Un marché qui reconnaît les externalités, donc qui vise à régénérer la nature et les communautés sur lesquelles il s'appuie. Donc où les entrepreneurs génératifs sont en co-solidarité avec les communs ils ont un design pro-commun, si on veut, et une forme d'État, à mon avis. Donc moi, je considère les fondations for benefit comme une sorte d'État de territoire virtuel. C'est-à-dire ils sont en charge du bien commun, de la communauté, de l'économie, d'un commun particulier. Donc voilà donc la vision d'un État qui pourrait être un État partenaire, un État facilitateur, qui n'est pas à l'extérieur, comme aujourd'hui, mais qui est une émanation de l'autonomie individuelle et sociale. Alors, juste un exemple que j'ai vu hier, en fait. Donc j'étais aux îles Tenerife, les îles Canaries. Une semaine de conférence sur Tenerife Collaborativa, un groupe de gens qui essayent de transformer l'économie de l'île vers plus d'autonomie, de résilience, etc. Et il y avait une dame qui travaillait pour l'État, donc je ne sais pas très bien, c'est la région, je crois, région Tenerife, qui a un petit projet, un tout petit projet, mais enfin, mettre ensemble les écoles, les bioagriculteurs, pour que 40 000 enfants ont de la nourriture biologique à l'école. Ben ça, c'est l'État partenaire. Elle n'a obligé personne. Elle a joué le rôle de mettre ensemble des acteurs pour faciliter l'émergence d'une économie du commun autour de l'agriculture biologique. Donc c'est ça. Donc il ne faut pas rêver non plus qu'on va tout changer tout de suite. C'est une question de chercher partout où on est des ouvertures des politiciens ou des administrations qui sont ouverts à ça et de faire des micro états partenaires au niveau de la cité, de la région, etc. etc. Alors je reviens au changement de régime de valeurs. Donc comment conceptualiser aujourd'hui un changement de régime de valeurs? Alors je crois que la première chose, c'est qu'on peut parler de value sovereignty. Souveraineté de la valeur. Il faut m'aider, hein, parce que je pense en anglais. Donc c'est la même idée que food sovereignty. Hein, donc l'idée qui vient des mouvements indigènes et des mouvements paysans, c'est de reprendre la souveraineté sur l'alimentation, de décider dans un territoire ce qu'on veut manger. D'accord? Donc on peut très bien décider dans une communauté productive, dans un commun urbain, qu'on devient souverain au niveau de la valeur. C'est-à-dire, ce n'est pas la dictature de la valeur marchande qui va déterminer comment nous allons voir la production de valeur dans notre communauté. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Bien, mon grand étonnement, il y a une étude qui vient de se terminer qui s'appelle P2P Value, qui est un projet de 3 ans, financé par l'Union européenne. Ils font des choses bien, dont la P2P Foundation faisait partie, mais bon, moi j'ai aucun, je n'y ai pas participé, donc j'ai aucun, c'est pas moi, c'est pas ma faute, voilà. Ils ont trouvé que 85% de ces 300 communautés productives pair à pair qui ont été étudiées dans le projet avaient des comptabilités contributives. Alors, vraiment, je suis. Heureusement que j'étais assis. Enfin, moi, je connaissais déjà, hein, donc j'ai une section dans mon wiki qui s'appelle P2P Accounting, avec 400 articles. Il y avait Sensorica, il y avait Inspiro, mais franchement, je croyais que c'était pionnier. Et donc, de découvrir que 85% de ces communautés ont des comptabilités contributives, bon, pour moi, c'était franchement quelque chose d'étonnant et qui confirme un peu les intuitions qu'on a pu avoir dans notre travail. Donc ça, c'est la première chose, établir des comptabilités contributives. Alors, ça veut dire quoi? Je vais donner un exemple de Sensorica. Donc, l'idée de Sensorica, c'est une communauté qui fait des senseurs scientifiques ouverts, Open Scientific Hardware. C'est-à-dire que chez nous, on reconnaît toutes les formes de contribution, pas seulement la valeur marchande. Donc, si je donne des heures de travail, ou je prête une machine, ou je mets à disposition des pièces pour se réunir, tout ça est reconnu dans la communauté comme une contribution. Donc ça, c'est la première étape. L'étape, c'est de faire des comptabilités contributives dans nos communautés. Donc nous allons décider, chez nous, ce qu'est une contribution, ce qu'est un apport de valeur. Alors évidemment, on n'a pas la force de changer le monde à l'extérieur, en tout cas pas encore. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et on crée une membrane. Hein, comme tout être vivant, on a la peau, les cellules ont leur membrane. On va créer une membrane qui va filtrer et qui va gérer les relations entre nos micro-communautés de valeur souveraine et la dictature de la valeur marchande. Donc ça, pour ça, nous, on a proposé une licence à réciprocité renforcée. Alors, encore une fois, pour expliquer, donc, dans le logiciel libre, ce n'est pas tellement un problème parce que c'est un travail immatériel, donc on a besoin d'un cerveau, d'un corps. On peut très bien rester, comme j'ai toujours, jusqu'à 42 ans chez ses parents et ça marche. Une fois qu'on commence à produire dans le monde physique, ça devient très problématique parce qu'il faut louer, il faut des matières premières, il faut des machines, il faut éventuellement des salaires. Donc là, le fait qu'on est en communauté et qu'il y a un prédateur qui va prendre toute cette connaissance commune pour en faire un modèle marchand sans réciprocité peut poser problème. Donc je crois que si on veut une convergence entre les modèles solidaires, le modèle LSD, tu l'as mentionné ce matin, puisque je l'ai vu là. Donc depuis lors, je dis partout. Je dis toujours Michel Briand. Hein. Donc LSD libre, solidaire et durable. Donc il faut cette convergence entre le modèle libre, donc partager les connaissances, et le modèle éthique et entrepreneurial qui est de redistribuer d'une façon solidaire et juste les fruits de notre travail commun. Ben, dans ce contexte-là, moi je crois qu'il faut ce type de licence qui va gérer, hein, qui va gérer cette membrane. Et pour vous expliquer ce que dans le mode de Caratani, ce que je veux dire, donc au Moyen-Âge, on avait une économie morale. Hein, il y avait les théories du juste prix. Alors, on peut discuter leur morale, hein, on n'a pas la même morale qu'au Moyen-Âge. Mais imaginez-vous dans une ville médiévale, donc tout était fait pour que la nourriture était à prix raisonnable pour toute la population. C'est clair, parce que s'il y a une révolution dans une ville médiévale, on ne survit pas. Donc il fallait maintenir la paix sociale. Et donc le marché était soumis à des règles éthiques selon les stations dans la vie qu'on avait. On avait droit à un certain bien-être matériel. Et tout ça était géré, donc le capitalisme, le marché médiéval n'était pas un marché capitaliste. C'était un marché éthique. Et donc, dans un, je crois que ce qu'on pourrait vouloir, en tout cas c'est ce que moi je vois, c'est que le commun doit rendre éthique le marché. C'est-à-dire, on doit, en tant que commoneur, on doit créer des formes de marché. Qui sont communifiés et qui reconnaissent la réciprocité avec le commun. Donc on refait du marché quelque chose qui n'est pas prédateur, mais qui est quelque chose qui génère, régénère les communautés et la nature en créant des règles de réciprocité pour le marché. C'est assez logique, hein, si vous êtes une coalition entrepreneuriale et vous êtes codépendant d'un commun, vous allez d'une façon assez naturelle vouloir créer des liens qui sont des liens qui respectent la réciprocité, etc. Voilà. Alors, je ne sais pas combien de temps j'ai déjà parlé, mais j'espère que vous comprenez la logique. Donc la logique que je propose, pour peut-être pas pour les assemblées des communs, mais pour les chambres des communs, c'est cette logique-là, c'est de se voir en tant que... Nous sommes des commoners. Dans notre 2 milliards, 3 milliards de personnes dans le monde dépendent de communs physiques, encore aujourd'hui. Ce sont des commoners. En Afrique, par exemple, c'est 85%. Et nous avons 2 milliards de personnes qui sont sur Facebook, qui n'est pas vraiment un commun, mais qui pourrait être un commun. Il y a probablement 2-3 milliards de personnes dans le monde qui vivent avec et grâce à des communs numériques. Donc c'est une question de vision. Les paysans qui étaient chassés de leurs terres pour devenir des ouvriers dans les villes anglaises, ce n'étaient pas des travailleurs hein, au départ. Donc la conscience d'être un travailleur, c'est quelque chose qui a été créé, c'est un imaginaire social qui a été créé par les anarchistes, par les socialistes. Ça a pris du temps, mais les gens ont commencé à se voir non pas comme un paysan pauvre exclu d'une terre qu'il ne reverrait jamais, mais comme quelqu'un qui est dans une usine et qui probablement restera toute sa vie dans l'usine. Et donc aujourd'hui, en tant que citoyens en réseau, nous sommes tous confrontés et dépendants de réseaux. Nous sommes des commoneurs.
3 millions en France.
Mais voilà. Voilà. Donc c'est ça. Donc une fois qu'on commence à raisonner comme des commoneurs, on peut commencer à raisonner et comment est-ce qu'on va commonifier l'État, le marché, la réciprocité. Comment est-ce qu'on peut avoir un marché qui fonctionne pour nous en tant que commoneurs? Comment est-ce qu'on peut avoir un État qui marche pour nous en tant que commoneurs? Comment est-ce qu'on va avoir des modèles de réciprocité qui vont fonctionner pour nous? Et comme ça, petit à petit, on crée un monde à l'image de nos valeurs, qui est un monde pluraliste, mais qui sera quand même un monde, éventuellement, dans le futur indéterminé, sera un monde où les communs seront l'attracteur chaotique primaire, soutenu par un marché éthique régénérateur et un État partenaire. Voilà. C'est juste une proposition, évidemment, mais je crois qu'elle émerge d'une façon assez organique des pratiques des commons, aussi bien numériques que des communs urbains, qui sont en train de, aujourd'hui aussi, de se développer d'une façon assez exponentielle. Alors je dis ça en vitesse parce que c'est prouvé. Donc il y a une étude hollandaise de Tine de Moor, qui est une historienne des communs, qui avait démontré il y a déjà 2-3 ans que, donc au niveau des initiatives autonomes des citoyens, donc citoyens et coopératifs, il y a une croissance linéaire de 80 à 2005 et une croissance exponentielle depuis 2005. Alors on vient de refaire l'étude en Flandre et ça s'est confirmé, mais ça commence en Flandre en 2009. Alors pourquoi la différence? Aux Pays-Bas, ils ont créé une crise artificielle avec l'austérité. Le roi hollandais a déclaré c'est la fin de l'État social en 2005. Donc ils ont coupé dans l'art, dans l'éducation, enfin partout. Hein. Aujourd'hui, les Pays-Bas, c'est un pays le plus néolibéral du monde, avec 1 million de travailleurs autonomes qui vont tous se retrouver dans 15 ans sans pension, sans assurance maladie, etc. Donc ça va être une explosion, une paupérisation très rapide de la population occidentale qui se prépare. Et donc, les gens réagissent par des communs. Qu'est-ce qu'on fait en temps de crise? On réagit par les communs. Et je conclue, pour les écologistes parmi nous, donc ça c'est un petit livre qui s'appelle Ecological Revolutions and the Axial Religions, donc les révolutions écologiques et les religions axiales. Chaque fois qu'un système compétitif, donc où des élites compétitives dominent un système, ils ont chaque fois détruit leurs ressources naturelles. C'est pas une exception, c'est la règle. Et chaque fois, comment est-ce que la civilisation s'en est sortie? En faisant trois choses. mutualisation des connaissances, mutualisation des ressources physiques et relocalisation de la production. Alors, en vitesse, au Moyen-Âge, monastère, hein, le fameux livre de Jean Gimpel, la première révolution industrielle médiévale, montre que 90% des innovations technologiques étaient le fait des moines. Les monastères en tant qu'espace physique, hein, où tout le monde a à manger et un toit, et une vie spirituelle riche. Et la relocalisation, et ça on ne voudra peut-être pas dans la même forme, par la féodalisation des domaines et l'économie de subsistance. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Mouvement open source, on mutualise les connaissances. Le sharing economy, mal fait par une modalité prédatrice, par Uber et Airbnb, mais nécessaire. Mais on doit trouver d'autres formules, donc comme par exemple les coopératives de plateforme ou les banques de données coopératives. Donc on a aujourd'hui, on voit bien, on a cette émergence de cette mutualisation des infrastructures et en troisième lieu, la relocalisation de l'industrie. Alors ça va prendre un peu plus de temps peut-être, mais en tout cas avec les nouvelles générations de machines, les imprimantes 3D, etc., on peut envisager aujourd'hui des modes de production cosmolocal, c'est-à-dire tout ce qui est léger est global et tout ce qui est lourd est local. Je vous rappelle que le BNP de transport est plus grand que le BNP de la production et que si on calcule en matière énergie, on arrive à 3 à 1, c'est-à-dire on dépense 3 fois plus de matière énergie pour déplacer que pour produire. Donc rien qu'en faisant ça, on peut éliminer 2/3 du carbone et de la matière énergie qu'on dépense dans le monde. Voilà. Alors je ne sais pas très bien ce que ça va avec les assemblées des communs.
On va en discuter.
Mais on va en discuter. Voilà. Merci.
Okay. Merci.